Je vous présente Charles Forsdyk. Voilà, parce que j'ai toujours eu tendance à mal prononcer ton nom. Donc, il est professeur of French Studies à l'Université de Liverpool. Alors, Charles est l'auteur de nombreuses publications en lien avec l'Empire colonial français, la littérature postcoloniale francophone et les formations culturelles issues de l'esclavage transatlantique. Il a notamment travaillé sur la révolution haïtienne et sur Toussaint l'ouverture. Il a également consacré une part de ses recherches aux littératures du voyage, à la diversité dans la perspective de Victor Ségalène. Il est l'auteur d'une liste alors, vraiment impressionnante d'ouvrages et d'articles. Je vais en citer que quelques-uns. Hein. Victor Ségalène and the Aesthetic of Diversity. Je dois prononcer très mal Aesthetic. Travel in the 20th Century French and Francophone Culture. Toussaint l'ouverture Black Jacobin. Do you say Jacobin?
Jacobin.
Yeah. In the Age of Revolutions. And the Black Jacobin's Reader. Donc ça, c'est juste un échantillon. Ses dernières recherches portent sur le dark tourisme, tourisme noir ou thanatourisme. Et de la même manière que tu as beaucoup publié, il y a aussi une liste impressionnante des fonctions que tu as occupées dans la recherche. Et je dirais simplement que tu as été président de la Society of French Studies. Tu as été co-directeur du Center for the Study of International Slavery et récemment, tu viens de coordonner le programme Translating Cultures pour le Arts and Humanities Research Council. Donc, tu nous parles aujourd'hui du bagne guyanais comme lieu de mémoire post-colonial. Je vais te laisser peut-être à la table seule. Voilà.
Merci, Christine. Je te remercie de cette introduction et je te remercie et avec les autres membres du groupe de l'invitation à venir partager ces recherches aujourd'hui. Donc, comme vient de le dire Christine, je vais parler du bagne guyanais. Le bagne, c'est un phénomène immédiatement post-esclavagiste. Donc, lancé en 1852, donc 4 ans après l'abolition, pour des raisons évidentes. Mais le bagne guyanais, et vous verrez au cours de ma présentation, fait partie quand même d'un réseau beaucoup plus large, de ce qu'on pourrait appeler un archipel carcéral. Donc, je vais parler bien sûr de la Guyane dans le contexte des Antilles, mais on ne peut pas en parler sans faire allusion en même temps à la Nouvelle-Calédonie, donc au bagne mélanésien, mais également au Vietnam, à l'Algérie. Donc je parle vraiment d'un réseau carcéral transcolonial, transnational, mais vous verrez. Christine vient de poser la question, s'agit-il de strates étanches lorsqu'on parle de l'esclavagisé, lorsqu'on parle du bagnard, il faut ajouter bien sûr l'engagé également. Et ce qui m'intéresse justement, ce sont les rapports entre la mémoire de cette institution-là avec la mémoire de l'esclavage. Et la présentation se trouve à la confluence de deux projets récents. Donc d'un côté, et je ne vais pas en parler en détail. J'ai mené pendant 2 ans avec des collègues à Nanterre et puis en Australie, en Tasmanie, un projet justement, et Christine vient de l'évoquer, sur ce qu'on appelle en anglais « dark tourism ». Ça ne se traduit pas en français. On a essayé à plusieurs reprises. Nous avons adopté « tourisme des catastrophes ». Ça ne marche pas tout à fait. Mais quand même, c'était un projet sur les sites de souffrance, les sites de mémoire qui se sont transformés en lieux lieu du patrimoine, souvent en lieu de tourisme. Et à Paris, les collègues ont travaillé surtout sur le tourisme macabre lié au génocide, surtout à la Shoah, mais également au Rwanda. Et nous, à Liverpool, nous avons travaillé justement sur le patrimoine carcéral. Et c'est ce travail sur le patrimoine carcéral, sur les musées dans les prisons, qui sous-tend un peu ce que je veux présenter aujourd'hui. Donc, de l'autre côté, et c'est là que je viens au lieu de mémoire, je viens de terminer un projet avec deux collègues français, mais qui se trouvent aux États-Unis, donc Lydie Moudleno et Étienne Achille, un projet sur les lieux de mémoire postcoloniaux, lieux de mémoire qui se traduit souvent en anglais comme « realms of memory ». Et vous allez voir que c'est une tentative d'aborder le projet de Pianora sous un angle postcolonial, pour en montrer un peu les lacunes dont on a beaucoup parlé, les lacunes autour de la mémoire coloniale et postcoloniale, dont on a beaucoup parlé, mais qu'on n'a pas étudié de près. Donc voilà un peu le contexte plus large de ce que je veux présenter aujourd'hui. Reconnu comme tel par les historiens français, aussi bien qu'internationaux, les lieux de mémoire de Pianora constituent l'une des études les plus influentes sur la question de la mémoire à la fin du XXe siècle. Publiée en 7 volumes sur une période de 8 ans entre 1984 et 1992, cet effort collectif comprend 133 contributions couvrant des périodes allant de la préhistoire, avec le cas de Lascaux, jusqu'au présent. Il a permis, je crois, d'élaborer un paradigme novateur pour repenser les relations entre la nation, le territoire, l'histoire et la mémoire. Cette collection, ainsi que le concept dont elle a permis une diffusion et une banalisation beaucoup plus large, a favorisé de nouvelles lectures du passé, représentant et inscrivant celles-ci dans l'imaginaire collectif de la nation. Suite au travail de Nora, le lieu de mémoire est devenu un terme critique largement utilisé, certains diraient même sujet à un usage excessif, au cours des 3 dernières décennies, au point que le grand Robert, la langue française, l'a inclus comme expression à partir de l'édition de 1993. Il faut souligner que le projet de Nora a émergé du contexte français de la fin des années 70 et du début des années 80, période que l'historien a lui-même qualifiée de « moment de mémoire ». Au cours de ces années, l'intérêt porté au phénomène mémoriel faisait partie d'une préparation plus générale, bien sûr, au bicentenaire de la Révolution française en 1989, inaugurant, selon la formule de Nora lui-même, une ère de la commémoration. Pour Nora, cette réflexion méthodologique s'est déroulée à un moment critique marqué par une accélération de l'histoire, tournant au cours duquel la continuité de la mémoire nationale a elle-même été sérieusement perturbée. L'argument désormais célèbre de Nora est que cette perturbation renvoie à l'incarnation de la mémoire dans certains sites, phénomènes ou concepts où la continuité historique persiste quand même. Selon lui, ce sont des lieux de mémoire, définis comme des lieux où se cristallise et se réfugie la mémoire, et comme des sites où s'ancre, se condense et s'exprime le capital épuisé de notre mémoire collective. Ceci existe parce qu'il n'y a plus, selon lui, de milieu de mémoire, ces environnements réels nécessaires à la construction d'un patrimoine collectif. Parmi les nombreux éléments influents qu'elle contient, l'œuvre de Nora a ainsi produit un concept transhistorique qui a déclenché un changement épistémologique dans les rapports qu'une société entretient avec sa mémoire collective. Pour Nora, il existe une tendance croissante à l'externalisation de la mémoire publique qui remplace l'internalisation à laquelle les périodes précédentes avaient été associées. L'impact de la collection de Nora au moment de sa publication a été considérable. Et le concept du lieu de mémoire a depuis acquis une place importante dans les études sur la mémoire, s'étendant souvent au-delà du contexte universitaire pour atteindre les médias ainsi que le domaine du patrimoine. Et je signale qu'un guide du Petit Futé sur les lieux de mémoire en France a été publié à partir de 2005, preuve de l'importance croissante du tourisme de mémoire, souvent sous la forme de cet tourisme macabre, ou ce qu'appelle Ambroise Thézénas, et c'est l'une des tentatives françaises de traduire ce terme dark tourism, le tourisme de la désolation. Le concept de Nora a acquis également une portée transnationale et a été transposé dans une variété de contextes, francophones et autres. Des projets ont également été développés dans différents cadres nationaux, notamment au Canada, en Allemagne et en Russie, mais aussi dans les pays du Sud, à la suite de l'appel d'Henri Moniaux, dans le contexte de l'Afrique subsaharienne, de faire du Nora sous les tropiques. Les limites du concept théorique de Nora ont également été testées dans plusieurs études, pourtant sur des sites de mémoire coloniale, et des initiatives récentes ont également conduit à l'élaboration de termes alternatifs tels que nœud de mémoire, lieu d'oubli et, dans un contexte entier, lieu de traumatisme. Comme en témoignent ces études alternatives, le projet des lieux de mémoire a été largement critiqué depuis sa publication initiale, malgré cette pertinence paradigmatique. Certains silences et lacunes liés notamment à l'empire colonial français et ses héritages postcoloniaux sont particulièrement frappants. Par exemple, alors qu'un chapitre de Gérard Noiriel est consacré aux Français et étrangers, celui-ci se concentre principalement sur la mobilité intra-européenne. La question de la migration et celle des interactions entre immigration et postcolonialisme, notamment en ce qui concerne par exemple le Bumidom, sont par ailleurs largement absentes des 7 volumes de Nora. Et ce, malgré la visibilité, l'urgence politique et la pertinence dans le débat public que ces questions ont suscité au cours des années 80. Bien que constituant le contexte immédiat de sa production, le militantisme croissant de la société civile au milieu des années 80 ne semble pas avoir eu d'impact majeur sur le cadre conceptuel et éditorial dans lequel le projet de Nora s'est déroulé. La collection des lieux de mémoire repose en grande partie sur des exemples associés à la Troisième République, autour desquels la plus grande France a été construite. Le projet a également pour ambition de représenter l'hétérogénéité et la pluralité du patrimoine collectif français. En conséquence, les lieux de mémoire ont été attaqués pour l'absence criante, décrite comme rien de moins que fantastique par l'historien américain Gregory Mann, l'absence criante de référence à l'empire colonial, à l'héritage colonial et à la topographie postcoloniale. La collection souligne activement la fluidité des frontières de la France métropolitaine. Les contributions traitent, par exemple, de l'acquisition de la Corse en 1768 ou de la perte de l'Alsace-Lorraine pendant la guerre franco-prussienne, mais ne mettent que très peu en avant les traces de l'expansion transocéanique et transméditerranéenne dans les colonies. L'empire colonial et l'outre-mer sont en grande partie exclus par un nationalisme méthodologique dont dépendent la conception du projet. La critique bien connue de Perry Anderson, dans son essai intitulé « La pensée tiède », repose sur la reconnaissance de cette absence de traces de la mémoire coloniale, considérée selon Anderson comme objet d'un non-lieu au tribunal de ses souvenirs à l'eau de rose. Considérant le chapitre de Charles Robert Ageron sur l'exposition coloniale de 1931 en tant qu'étude sur les babioles exotiques, je cite, Anderson conclut « Que valent des lieux de mémoire qui oublient d'inclure Dien Bien Phu ?» Les lieux de mémoire sont ainsi devenus emblématiques d'une certaine incapacité ou d'une réticence française à explorer le rôle du fait colonial dans ce qu'on appelle le roman national français et ses manifestations mémorielles. Depuis la fin des années 90, toutefois, les études postcoloniales ont progressivement gagné du terrain dans l'espace institutionnel, non seulement dans les universités anglophones, mais également maintenant en France, où fiction, témoignages et nouvelles connaissances théoriques ont contribué à une formidable expansion de la bibliothèque postcoloniale. Parmi ces contributions, citons le travail de Lachac, dont les recherches sur le passé colonial français servent en partie de contrepoint explicite à la vision hexagonale de Nora. Dans l'introduction à la fracture coloniale, donc de 2005, l'une des publications marquant le tournant postcolonial en France, qui caractérise le XXIe siècle, les auteurs soulignent l'absence de dimension coloniale dans le projet de Nora, déplorant le fait qu'il soit systématiquement, et je cite, minoré, presque oublié. Et pourtant, je crois qu'il faut reconnaître que l'Empire colonial n'est pas entièrement absent des contributions à ces volumes. De nombreux critiques ont signalé que le seul chapitre qui aborde ouvertement les questions de la mémoire coloniale est celui, je l'ai déjà évoqué, de Charles Robert Ageron, consacré à l'exposition coloniale de 1931. L'exception la plus notable à cette aphasie coloniale. Un examen plus approfondi des volumes révèle pourtant que d'autres chapitres contiennent des références aux enjeux coloniaux et postcoloniaux. Bien que ceux-ci ne remettent pas en cause les critiques formulées ci-dessus, cette présence diluée de l'Empire colonial dans les 5000 pages du projet mérite certainement d'être examinée de plus près. On pourrait citer, par exemple, l'Hexagone d'Eugène Weber, qui retrace l'évolution des représentations de la France dite métropolitaine par rapport à son empire colonial. L'essai d'Hélène Himmelfarb sur Versailles situe la conservation plus récente du palais dans le contexte des guerres de décolonisation en Indochine et en Algérie, et Maurice Agulon, se concentrant sur le centre et la périphérie, relie la montée du sentiment régional en France au déclin du patriotisme colonial. D'autres articles montrent bien que la mémoire nationale ne peut pas être isolée de son pendant colonial. Dans le Front de mer, Michel Mola du Jourdain discute par exemple de la distribution aléatoire de documents entre les archives coloniales et navales. Le chapitre de Jean-Marie Mayer, qui explore la notion de mémoire frontière en Alsace, rappelle au lecteur le rôle joué par les troupes algériennes lors de la bataille de Wissembourg en 1870. Un grand nombre des sujets choisis par Nora auraient pu facilement montrer les dimensions coloniales des pratiques mémorielles qu'elles décrivent. On pourrait en effet avancer qu'il n'y a aucun chapitre dans la collection originale qui ne bénéficierait pas d'un examen minutieux du point de vue postcolonial. Prenons quelques exemples. La contribution d'Antoine Proust sur les monuments aux morts porte presque exclusivement sur un récit national français et n'explore pas la nature complexe des monuments similaires érigés en Outre-mer. De même, il ne prête aucune attention à la présence en France elle-même de nombreux monuments commémoratifs dédiés aux troupes coloniales, notamment aux tireurs sénégalais, susceptibles sans doute de perturber la cohérence des récits conventionnels portant sur la mémoire nationale. De même, l'essai sur le drapeau tricolore, bien que rédigé par l'historien colonial Raoul Girardé, fait peu allusion au voyage du drapeau et à son rôle symbolique dans de nombreux contextes coloniaux. Enfin, l'analyse que propose Mona Ouzouf de Liberté, Égalité, Fraternité considère également le slogan de la Révolution dans un contexte national, sans toutefois reconnaître dans quelle mesure la Révolution haïtienne a contribué à sa formulation en proposant une émancipation universelle, sans doute inimaginable en France à l'époque. Compte tenu des lacunes exposées ci-dessus, il est évident qu'il y a de bonnes raisons de chercher à post-colonialiser le concept de lieu de mémoire tout en esquissant de nouveaux exemples, ce que je propose maintenant avec le cas du bagne guyanais. Dans Retour de Guyane, texte déchirant sur les violences liées au bagne en Guyane française, Léon Gontran Damas s'interroge sur la manière dont les références à cette institution sont reprises dans les diverses menaces proférées par les parents pour garder leur progéniture sous contrôle. Il dit « Toi, dira une mère qui souffre de trouver en son fils l'âme d'un dévoyé, tu finiras tes jours à Cayenne. » La présence de références au bagne dans de nombreuses expressions courantes en français reflète la manière dont ce lieu s'est progressivement enraciné dans l'imaginaire populaire français. Quelle galère, qui renvoie aux galères pénitentiaires antérieures aux bagnes portuaires de Brest, Marseille et Toulon, et quel bagne, sont deux expressions encore d'usage courant qui font allusion à une situation inhabituellement dure ou difficile. L'une des explications de Tonnerre de Brest, la malédiction rendue populaire par le capitaine Haddock, ami proche de Tintin, ferait, selon certains, allusion au coup de canon tiré lorsqu'un bagnard s'échappait de la prison bretonne. Un autre symbole républicain français et lieu de mémoire à part entière, le bonnet phrygien qui incarne d'une certaine manière la Révolution, serait lui-même dérivé du chapeau rouge porté par les bagnards pour les distinguer facilement des autres membres de la société. En dépit de cette visibilité, le bagne a acquis un statut ambigu de lieu de mémoire, en partie parce que sa localisation, avant tout extra-métropolitaine, fait que les traces de l'institution en France sont relativement rares, en partie parce que la plupart des conceptions de l'institution reposent fortement sur des représentations véhiculées et souvent déformées par la culture populaire. Notamment, je pense aux Misérables de Victor Hugo et ses diverses interprétations dans de différents genres. En même temps, le rapport du bagne à la mémoire coloniale nécessite d'être précisé. En Guyane française, ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie, le bagne a été un facteur déterminant dans la tentative de mise en valeur de ces colonies. Il s'agissait également de sites associés à une importante mobilité transcoloniale, pourtant largement éclipsée par les représentations de l'institution qui se sont multipliées depuis sa disparition. Les récits de voyage et les pratiques mémorielles oublient par exemple les prisonniers politiques kabyles déportés en Nouvelle-Calédonie à la suite de la rébellion Al-Mokrani de mars 1871 ou des Algériens reconnus coupables de crimes civils condamnés à des périodes de travaux forcés en Guyane française. Comme le révèlent les travaux récents d'Anne-Laura Stoller dans ce livre-ci, Duress, de 2016, et de Claire Anderson dans ce livre-ci, A Global History of Convicts and Penal Colonies, qui date de 2018, les bagnes français faisaient partie, et je l'ai déjà évoqué, de ce qu'on pourrait appeler un archipel carcéral, qui bénéficie désormais de l'attention de spécialistes du patrimoine pénitentiaire à travers le monde. Les établissements pénitentiaires français ont fonctionné au Maghreb, en Afrique subsaharienne et en Indochine. Mais les principaux lieux de transportation et de déportation étaient les sites, les multiples sites associés à la Guyane française et également ceux associés à la Nouvelle-Calédonie. Les colonies avaient été utilisées pour le bannissement de prisonniers politiques pendant la Révolution française. Des opposants contre-révolutionnaires de la République ayant été envoyés pour la première fois en Guyane française. Parmi eux se trouvait Louis-Ange Pitou, dont le voyage à Cayenne, dans les deux Amériques et chez les anthropophages, publié en deux volumes en 1807, relate son incarcération dans la colonie sud-américaine entre 1798 et 1801. Le texte de Pitou inaugure une longue tradition de récits de voyage, et voilà quelques exemples de la période de l'entre-deux-guerres, donc des années 20, des années 30, écrits par des bagnards et leurs gardiens, ainsi que par les voyageurs et des journalistes, qui ont joué un rôle clé dans la transformation du bagne de la Guyane française en lieu de mémoire. L'examen minutieux du contenu de ces textes et sa comparaison avec les histoires réelles des bagnes révèle cependant une nette divergence, notamment en ce qui concerne la place du bagne dans l'expansionnisme colonial français et ses manifestations transcoloniales. On peut en effet soutenir que jusqu'à ces dernières années, et souvent avec l'intervention directe des autorités, le bagne a davantage fonctionné comme lieu d'oubli postcolonial que comme lieu de mémoire. La transportation vers les colonies françaises a commencé dans les années 1850, quelques décennies après l'inauguration du projet d'expansionnisme post-révolutionnaire. C'est vers la colonie de l'ancien régime de Guyane française que les administrateurs se sont d'abord tournés, en grande partie en raison, comme le prétendent brièvement Damas, du double avantage qu'offre cette colonie d'être éloignée et spacieuse. La transformation d'un espace colonial en bagne avait plusieurs objectifs. Elle permettait d'éloigner de la France métropolitaine les personnes considérées comme politiquement ou socialement indésirables. Elle fournissait à un coût relativement faible la main-d'œuvre nécessaire au développement de l'infrastructure des colonies, voilà la théorie. Et enfin, les condamnés pendant et à la fin de leur peine permettaient aux colons d'habiter des lieux désignés comme colonies de peuplement. Dans un tel contexte, l'introduction d'une population étrangère, française, a eu des implications évidentes pour les populations autochtones, allant d'une part au mariage mixte et à l'émergence d'une population créolisée, et d'autre part à la mort à cause des maladies occidentales et également la confiscation des terres indigènes. La Guyane est un exemple frappant de cette logique et de ses conséquences. Objet de nombreuses tentatives d'implantation coloniale, en particulier la malheureuse expédition de Kourou de 1763, un premier bagne a été créé en 1852, 4 ans, je viens de le constater, après l'abolition de l'esclavage par Louis-Napoléon Bonaparte à Cayenne, dans le but principal de retenir les opposants politiques du Second Empire. La colonie a commencé à recevoir des condamnés à la suite du décret de 1854 relatif au travail forcé. Les conditions en Guyane étaient pourtant mauvaises, tant pour les bagnards que pour les fonctionnaires, et le taux de mortalité fort élevé. Le bagne de Guyane était par conséquent connu sous le nom de guillotine sèche, en raison des maladies et d'autres conditions inhumaines auxquelles il était associé. L'espérance de vie était courte, même pour ceux qui avaient été envoyés dans les environs légèrement plus salubres des îles du Salut, y compris l'île du Diable, où Dreyfus sera incarcéré. Les pertes de vie humaine étaient telles qu'à partir de 1864, des bagnards métropolitains ont été envoyés en Nouvelle-Calédonie, dans le Pacifique, bien que ceux d'autres colonies, notamment dans les Caraïbes et en Algérie, continuaient à être envoyés en Amérique du Sud. Et après la suspension définitive de toute transportation vers le bagne mélanésien en 1897, la Guyane française a continué à fonctionner pendant 4 décennies, recevant des civils transportés, des prisonniers politiques ou déportés, mais aussi un certain nombre de dissidents d'Indochine pendant les années 1930. Le déclin du bagne guyanais s'est accéléré pendant la période de l'entre-deux-guerres, en partie grâce à un reportage cinglant que lui avait consacré Albert Londres dans Le Petit Parisien en 1923, en partie à cause de l'échec inhérent de l'institution, argument que développe Damas dans cet essai censuré de 1938, Retour de Guyane. En dépit de ses propres affirmations, l'intervention de Londres a conduit davantage à la réforme qu'à l'abolition, mais elle a indéniablement engagé un processus qui a conduit à la fermeture du bagne par Gaston Monnerville, alors sous-secrétaire aux États d'État aux colonies en 1938. Et avec la guerre, le rapatriement des prisonniers n'a commencé qu'à partir de 1946, et les derniers cherchant à rentrer en France sont arrivés à Marseille en 1953. Et ce qui est important pour les enjeux mémoriels, en 1965, le gouvernement français a transféré la responsabilité des îles associées au bagne au centre spatial guyanais, juxtaposant ainsi 2 projets expérimentaux, historiques et contemporains. Si on considère maintenant le bagne comme lieu de mémoire, il faut distinguer entre, d'une part, le phénomène singularisé qu'évoque couramment ce terme dans l'imaginaire collectif, et d'autre part, la multiplication de sites, moments, expériences qu'englobe le patrimoine carcéral qui reste. Malgré la mise en relief de la Guyane française, il existait, je l'ai déjà constaté, des bagnes ailleurs dans l'Empire français, notamment en Afrique du Nord, où les bagnes militaires ont opéré à partir de 1818, et de grands établissements pénitentiaires ont fonctionné ailleurs. Et j'évoque en passant le bagne de Poulou-Condor, aujourd'hui connu sous le nom de Condao, sur l'île de Con Son, dans le sud du Vietnam, lieu utilisé par les Français, dans un premier temps, pour l'incarcération de prisonniers politiques à partir de 1861, et ensuite par les Américains pour la torture des captifs pendant la guerre du Vietnam, ce qui illustre d'une manière frappante la façon dont les bagnes sont des lieux palimpsestes, où on montre très clairement les strates dont Christine a parlé au début. L'iconographie populaire des bagnards quittant l'île de Ré, notamment dans les cartes postales du début du XXe siècle, tendent à perpétuer le mythe racialisé du condamné blanc et français transporté à l'étranger. Les dimensions spécifiquement coloniales du bagne comme lieu de mémoire ne concernent pourtant pas uniquement les débats identitaires au sein des populations d'origine européenne, mais doivent, à mon avis, évoluer dans un cadre transcolonial plus complexe. Les représentations du bagne dans la culture populaire tendent à privilégier cette mythologie associée aux condamnés célèbres et ou aux prisonniers politiques, ou bien à perpétuer l'idée générale que les bagnards étaient principalement métropolitains et blancs. Ce que nous voyons par exemple, et je vous donne un exemple de la Nouvelle-Calédonie, ce que nous voyons avec la déportation de Louise Michel suite à la commune de 1871, ou celle, bien sûr, d'Alfred Dreyfus vers la Guyane française. Les récits d'Albert Londres sur le bagne de Cayenne ont également suscité un intérêt pour l'anarchiste français Eugène Dieudonné, auteur de « L'homme qui s'évada », qui fait maintenant aussi l'objet d'une bande dessinée, une des nombreuses BD françaises consacrées au bagne. Mais le plus visible dans le contexte guyanais est sans doute Henri Charrière, mythomane connu sous son surnom de Papillon, dont l'autobiographie a été rendue populaire dans cette version cinématique en 1973, mettant en vedette Steve McQueen et Dustin Hoffman. Et il y a une nouvelle version proposée l'année dernière par Michael Noor. Ce que ces représentations populaires est largement répandu en tendance à minimiser, c'est la présence dans les bagnes de prisonniers coloniaux reconnus coupables d'infractions civiles ou déportés pour des raisons politiques. Pour que le bagne acquiert son statut de lieu de mémoire postcoloniale, il est essentiel d'accorder plus d'attention aux enchevêtrements transcoloniaux. La reconnaissance concrète de ces dimensions est de plus en plus apparente dans les pratiques patrimoniales contemporaines. Depuis longtemps en ruine, le Camp Creek Anguille de Montcinerie, tant grande en Guyane française, plus connu sous le nom du bagne des Annamites, dans lequel étaient internés les prisonniers politiques indochinois pendant les années 30, a récemment été restauré et rendu accessible. De manière peut-être plus frappante encore, et je passe en Nouvelle-Calédonie, les lieux associés aux prisonniers algériens ont eux aussi fait l'objet d'une grande attention, notamment autour de la ville de Bouraï, sur la Grande Île, où se trouve un lieu de mémoire connu sous le nom de cimetière des Arabes, dans lequel sont enterrés des détenus prisonniers politiques et civils maghrébins et leurs descendants. Et l'activité commémorative relative à Khaldoun, mot arabe désignant la Nouvelle-Calédonie, s'est considérablement développée ainsi, aussi avec cette exposition importante à l'Institut du monde arabe en 2011. Oui, je vais rester un peu avec les parallèles avec la Nouvelle-Calédonie, parce que on y trouve un exemple particulièrement frappant au cimetière des déportés de l'île des Pins, site habituellement associé à la commémoration de la Commune de Paris. Plusieurs communards y sont enterrés, mais la présence de déportés algériens est maintenant commémorée en même temps, montrant justement cet enchevêtrement de divers récits métropolitains et coloniaux dans ces lieux de mémoire carcéraux postcoloniaux. Les vies ultérieures de ces histoires ont également été explorées dans la littérature, médium qui peut jouer un rôle avant-gardiste dans la transformation du bagne en lieu de mémoire. Les rebelles algériens déportés en Nouvelle-Calédonie dans les années 1870 constituent un exemple particulièrement frappant. Avec Kabyle du Pacifique de 1994, Mehdi Lalaoui fournit une reconstruction méticuleuse de leurs itinéraires et de leurs récits, et l'expérience très différente, mais parallèle, de bagnards algériens déportés en Guyane française a également attiré l'attention de la fiction dans ce roman « Cayenne, mon tombeau » de Mouloud Akouche, de 2002, récit narré par un personnage franco-algérien qui part à la recherche, dans les années 80, du passé bagnard de son père. L'évolution récente des pratiques patrimoniales relatives au bagne français a été considérable, notamment en Guyane française. Dans ce cas, l'accent mis sur l'écotourisme et la dépendance économique vis-à-vis du programme spatial européen a éclipsé pendant de nombreuses années le développement de toute commémoration active du patrimoine carcéral. Pourtant, l'inauguration d'un centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine au camp de la transportation à Saint-Laurent-du-Maroni suggère un regain d'intérêt dans ce domaine. Et il y a des parallèles, dont je ne vais pas parler en détail, dans le Pacifique, où on voit par exemple une association qui a refait le site du fort Teremba et des militants de la mémoire à Nouméa essaient depuis un moment de développer le projet de musée permanent du bagne dans l'ancienne boulangerie des établissements pénitentiaires à Nouméa. On établit, et j'arrive à la fin maintenant, on établit souvent des parallèles entre les établissements pénitentiaires anglais en Australie et leurs homologues situés dans le monde francophone. Et il est évident qu'il existe une relation complexe entre le déclin des premiers dans l'Empire britannique et la montée quasi simultanée de ces derniers. Parallèlement à ces considérations historiques, il est toutefois nécessaire de réfléchir à leur statut de lieu de mémoire dans leurs contextes nationaux respectifs. L'inscription des sites du bagne australien sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO a conduit à une certaine homogénéisation des pratiques mémorielles qui les concernent. Ce n'est pas encore le cas de leurs équivalents francophones, dans lesquels existent encore des preuves, en Nouvelle-Calédonie, mais notamment en Guyane française, d'une lutte entre les forces anthropiques de la nature et de l'oubli, et le désir de retrouver des souvenirs du passé. Ces tensions sont peut-être le mieux articulées dans ce livre-ci, Guyane, trace mémoire du bagne, de 1994, photo-essai de Patrick Chamoiseau et de Rodolphe Amadi, dans lequel les auteurs rejettent ce qu'ils appellent les dizaines d'ouvrages, de chroniques, de témoignages, d'articles célèbres sur lesquels repose traditionnellement la mémoire du bagne que j'ai évoquée. Et ils proposent le remplacement par une tentative de, je les cite, « percevoir ce que les traces mémoire nous murmurent ». Ces édifices, constate Chamoiseau, ne témoignent pas actuellement des autres populations, amérindiens, esclaves africains, immigrants hindous, syros, libanais, chinois, qui, précipités sur ces terres coloniales, ont dû travailler moyen d'abord de survivre, puis de vivre ensemble jusqu'à produire une entité culturelle et identitaire originale. Chamoiseau propose pourtant de s'approcher des lieux du bout de bagne, non pas en visite, dit-il, mais en errance, non pas en flânerie, mais en divagation. Et cette notion de trace mémoire, développée ici par Patrick Chamoiseau, a bien sûr un rapport direct avec le lieu de mémoire, mais cherche à illustrer ainsi les limites du concept de Nora, tout en y intégrant plus activement, et je lui cède la parole en conclusion à Chamoiseau, tout en y intégrant des histoires dominées, des mémoires écrasées. Je termine là. Merci beaucoup.
Ah non, on aura des attentions. Non, oui, attends, je me suis mal exprimée. Oui. Il y a la grande discussion animée par mon...
Elle semble quand même que
d'accord.
Réagir
sur les
interventions. C'est très frustrant.
Alors, je ne sais pas si... Est-ce que quelqu'un a des questions, des commentaires ou...
Bonjour, je suis Michel Pierre, historien du bagne, avec Marie Bourdeau ici. Nous sommes responsables, justement, ou nous avons été responsables du lieu de mémoire à Saint-Laurent-du-Maroni. Donc on peut aussi répondre à des questions par rapport à ce que vous avez montré. Je veux simplement dire aussi quelques remarques qui me semblent importantes. C'est que vous n'introduisez pas le bagne de Guyane suffisamment dans une très longue durée. Vous avez trois moments importants. Donc vous pouvez, par exemple... Ce n'est pas possible de résumer le taux de mortalité à celui du Second Empire avec d'autres moments. Vous avez raison de souligner que Albert Londres, c'est un mythe, parce que le reportage est de 1923, on ferme le bagne en 1938. Donc s'il a joué un rôle, il a mis au moins 15 ans, et vous savez très bien qu'il n'a jamais demandé la suppression du bagne, puisqu'il écrit même au ministère des colonies, en disant « confiez-le vraiment à des militaires, puis ça ira mieux », bon, etc. Pour ce qui est... du nombre d'Algériens envoyés en Guyane, ça on est nombreux à l'avoir souligné. Et si effectivement ils ne figurent pas sur les cartes postales françaises à Saint-Martin-de-Ré, c'est tout simplement qu'on allait les chercher à Alger.
Le même bateau, oui.
Et puisque vous parlez de mémoire, il y a aussi la fabrication en Algérie de la mémoire des Kabyles de Calédoune, c'est-à-dire l'insurrection de Mokrani, qui ont été très rapidement, du reste, amnistiés, et pour la plupart d'entre eux sont revenus. La mémoire de Bouraille, c'est tout simplement qu'une partie des habitants de Bouraille sont descendants, mais de condamnés de droit commun, qui se sont installés sur place. Mais dans tout ça, c'est pour ça qu'il y a, les histoires de mémoire se jouent à plusieurs, y compris comment en Algérie même, puisque c'est un sujet sur lequel j'ai travaillé, s'est fabriquée cette mémoire, avec du reste une chanson qui s'appelle « Le bateau blanc », une grande chanson populaire algérienne et qui raconte comment on venait chercher les condamnés au droit commun, qui est du reste l'un des premiers reportages d'Albert Camus qui décrit comment ces condamnés sont embarqués sur le Lamartinière et dans l'Algérie républicaine. Voilà, donc simplement pour vous dire que par rapport à votre thème, on peut aussi expliquer ce que nous avons voulu faire à Saint-Laurent-du-Maroni par rapport à un travail qui avait déjà été entamé par le maire depuis déjà une vingtaine d'années, puisque tout ce qui restait à Saint-Laurent-du-Maroni a manqué vraiment être totalement arasé par demande de la population locale qui ne voulait plus entendre parler de toute cette histoire. Voilà. Enfin, c'est pour témoigner de ce que...
Je vous remercie beaucoup.
Merci pour votre intervention. Alors, ce que je te propose, Charles, c'est de prendre les questions, et puis tu y réponds après en suivant. Oui, on essaie de faire des interventions plutôt brèves pour eux, et après on aura la discussion générale. On pourrait intervenir.
Bonjour, donc Marie Bourdeau, anciennement responsable du service patrimoine à Saint-Laurent-du-Maroni et donc du centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine, qui a ouvert ses portes en 2014 et qui est effectivement un projet de longue haleine, puisqu'il a été lancé et porté par la collectivité et le ministère de la Culture depuis les années 80. Juste pour rappeler que le bagne ferme ses portes, notamment à Saint-Laurent, donc vous le précisez, dans les années 50, et que la population saint-laurentaise a vécu dans le bagne et dans le camp de la transportation des années 50 aux années 80, ce qui fait du camp de la transportation un lieu de mémoire partagé. Oui. Et ça, c'est très important. Voilà, je vous discuterai peut-être tout à l'heure.
Ensuite, Maude, tu avais...
Bon, alors merci beaucoup Charles, parce que j'ai trouvé ta présentation passionnante. Et juste une petite remarque, c'est que en Guyane, les gens bien sûr connaissent ces lieux de où vivaient, si j'ose dire, les prisonniers, mais il y a aussi dans la population toutes ces lieux qui sont pas vraiment des lieux, qui sont plus des espaces où les bagnards ont travaillé, les routes qu'ils ont construites, les ponts qu'ils ont construits, et qui fait vraiment partie aussi de la mémoire conservée du bagne, mais alors peut-être d'une manière moins vue, moins sue, moins partagée. Et voilà, bon, c'était juste pour ajouter ça. Et puis, bien évidemment, la présence des bagnards dans les constructions identitaires, principalement des créoles guyanais, là, sur les travaux de Marie-José Jolivet, ont extrêmement compté, et cette présence de ces blancs, entre guillemets. Voilà. En tout cas, merci pour ta
présence. Didier, je crois que tu voulais intervenir.
Oui, j'étais assez sensible au fait que vous avez une réflexion un peu impériale, en fait, sur les circulations. Donc, ça mériterait d'être creusé. Mais c'était surtout, en fait, une question ponctuelle sur la main-d'œuvre pénale qui vient de l'Empire. Alors moi, je travaille plutôt sur Madagascar, l'océan Indien. Et donc, il n'y a pas très longtemps, j'ai découvert qu'il y avait une main-d'œuvre pénale malgache. Il y a même un camp des Malgaches près de Saint-Laurent-du-Maroni. Alors, je ne sais pas si vous en savez plus. Et puis, il y a des gens également ici qui connaissent bien ces questions.
Voilà, dernière intervention, je me donne la parole. Juste
brièvement, parce que
je me donne juste la parole pour te dire, enfin, pour te demander, est-ce que le conseil...
Ah pas brièvement, non.
Voilà, je te pose une question.
Voilà,
voilà. Juste dire les lieux de mémoire de Nora. Oui, la grande critique, c'est Nora a ignoré le colonialisme. Mais je me demande si ce concept de lieu de mémoire il tient le coup aussi du point de vue théorique. Parce que c'est le lieu que l'on aurait reconstruit, enfin, c'est une reconstitution de quelque chose. Parce que la mémoire ne circule plus, l'histoire, etc. J'ai plus trop en tête, mais je sais que pour moi, c'était insatisfaisant dans la mesure où ça enlevait la puissance du langage non-verbal. Et voilà, je me disais que la critique porte aussi sur le point théorique.
Oui, oui. Je peux répondre brièvement
à tout le monde.
Oui, bien sûr. Mais je vous remercie de ces observations précieuses. Surtout sur ces questions de fabrication de la mémoire, parce que je n'ai pu qu'effleurer la surface, mais ce sont justement ces enjeux-là qui m'intéressent beaucoup, et les rapports entre justement population locale et les interventions institutionnelles officielles. Et c'est pour cette raison que ce que vous avez fait à Saint-Laurent m'a beaucoup frappé, parce que ça nous permet justement de comprendre non seulement ces enjeux, mais en même temps cette dynamique qui le soutient. Oui, cette question de lieu de mémoire partagé, de patrimoine habité, me semble très important, non seulement dans ce domaine, mais également dans le domaine des lieux de mémoire liés à l'esclavage, soit aux Antilles, mais également en Afrique subsaharienne. Et justement, et j'aimerais bien vous en parler, ce qui m'intéresse à Saint-Laurent, c'est le rôle qu'a joué les lieux de bagne avec les exilés du Suriname au cours des années 80, lorsqu'on voit d'une manière très frappante cette notion de lieu de mémoire habité et partagé. Donc merci beaucoup. Oui, Maud, sur cette question de paysage urbain, de l'infrastructure, oui, pour moi, c'est très important. Et on a eu, à Liverpool, on a eu des débats parallèles au moment du lancement du musée de l'esclavage, parce qu'il y avait des associations en ville qui disaient qu'en créant un musée de l'esclavage, il ne fallait plus faire face au fait que la ville elle-même, dans son paysage urbain, est un musée d'esclavage. Parce qu'il y a des traces, justement, directes, plutôt indirectes dans ce cas-là, des travaux forcés du passé. Et je crois que tu as tout à fait raison, qu'il faut en même temps mettre en relief. Parce qu'on revient à cette question de lieu de mémoire partagé. Et en ce qui concerne les routes, en ce qui concerne les bâtiments administratifs, qui sont eux aussi traces de bagne. J'ai essayé de le présenter, cette notion de main-d'œuvre coloniale, la circulation. Oui, pour moi, c'est pour cette raison que j'ai essayé d'évoquer. Et bien sûr, j'ai voulu parler surtout de la Guyane, mais il y a cet archipel carcéral, et on voit le déplacement de prisonniers, de transportés, de déportés, de récidivistes à travers ce réseau. Et ce qui m'intéresse, c'est la façon dans cette dimension-là, se fait de plus en plus jour dans la patrimonialisation de Bagne. C'est le site de Bagne des Anamites me semble être un exemple très frappant, bien qu'on entre dans les enjeux de la fabrication de la mémoire. et les questions des apports communautaires là-dedans. Et puis, oui, Nora, les lieux de mémoire, je suis d'accord. C'est un concept qui appartient à un contexte particulier, contexte national particulier, contexte chronologique particulier des années 80 en France. Ce qui m'intéresse pourtant, c'est la traduisibilité du concept qui est maintenant dans le monde anglo-saxon, dans les memory studies. C'est quelque chose qu'on utilise régulièrement sans se rendre compte justement des enjeux que tu viens d'évoquer. Donc merci beaucoup.
Merci à toi.